en séance. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Jean-David Levitte de l'Académie des sciences morales et politiques a été élu le 17 décembre 2007 dans la section générale au fauteuil laissé vacant par le décès de Raymond Triboulet. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de la séance solennelle de l'Académie qui s'est déroulée le 8 juin 2009 à l'Institut de France, au cours de laquelle le nouvel académicien, selon l'usage, lit la notice qu'il a rédigée sur le parcours et l'œuvre de son prédécesseur. Retrouvons Jean-Claude Casanova, président de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2009, en grande salle des séances pour l'ouverture de cette séance, puis Jean-David Levitte pour la lecture de sa notice.
Monsieur le chancelier, mes chers confrères, mesdames et messieurs, notre compagnie est assemblée pour entendre la lecture de la notice sur la vie et les travaux de Raymond Triboulet, qui fut élu dans notre compagnie le 17 décembre 1979, qui fut notre doyen d'âge et que nous avons malheureusement perdu. Selon notre tradition, cette notice sera lue par son successeur, M. Jean-David Levitte. M. Jean-David Levitte est ambassadeur de France. Il n'est pas le premier ambassadeur de France dans notre compagnie, puisque lorsqu'elle fut reconstituée en 1832, elle comprenait Talleyrand, qui avait été élu à l'Institut en 1795, dans la deuxième classe de l'Institut que Napoléon supprima en 1803, et qui avait été à ce moment-là l'ambassadeur du roi Louis-Philippe à la cour de Saint-James. Si je mentionne d'entrée Talleyrand, ce n'est pas pour éclairer de sa gloire passée un présent plus prosaïque. Après tout, Bonaparte et Chateaubriand, qui furent l'un et l'autre de l'Institut, doutaient fortement de la légitimité de la gloire de Talleyrand. Si j'invoque son nom, c'est parce qu'à la fin de sa vie, en mars 1838, il meurt en mai 1838, en mars 1838, Talleyrand est venu devant notre compagnie prononcer l'éloge historique de M. le comte Reinhardt, qui venait de disparaître. Reinhardt avait été élu avant lui à l'Institut. Né et élevé en Allemagne, Reinhardt avait été l'ami et le correspondant de Goethe. Il entra en France dans la carrière diplomatique, où il fut chef de division, directeur de la chancellerie, ministre ou consul à l'étranger, à Londres, à Naples, dans la Moldavie turque, à Francfort, à Dresde. Cette longue vie de diplomate se déroula dans une période agitée sous la République, le consulat, l'Empire, sous la monarchie d'abord restaurée puis rénovée, qui lui fit achever sa carrière à la Chambre des Pairs. Dans l'éloge que va prononcer Talleyrand, on trouve les raisons qui font que l'art de la diplomatie est un des plus élevés qui soit. Ces raisons sont donc celles qui justifient notre compagnie lorsqu'elle vous a élu. Ceux qui vous connaissent pourront noter l'exact parallèle qui existe entre le tableau que dresse Talleyrand, des qualités nécessaires aux diplomates, et celles dont votre longue carrière témoigne. Un ministre des Affaires étrangères, il veut dire un ministre plénipotentiaire, un ministre des Affaires étrangères est rare. Il faut en effet qu'un ministre des Affaires étrangères soit doué d'une sorte d'instinct, qu'il avertisse promptement, l'empêche avant toute discussion de jamais se compromettre. Il lui faut la faculté de se montrer ouvert en restant impénétrable, d'être réservé avec les formes de l'abandon, d'être habile jusque dans le choix de ses distractions. Il faut que sa conversation soit simple, variée, inattendue, toujours naturelle et parfois naïve. En un mot, il ne doit pas cesser d'être un moment dans les 24 heures d'être ministre des Affaires étrangères. Ministre dans ce texte, comme vous l'avez compris, doit être pris au sens d'agent, comme vous dites au Quai d'Orsay. Mais mon rôle, mon cher confrère, n'est ni de faire votre éloge, ni de vous complimenter. Non point que j'hésiterai à le faire, mais comme vous le savez, ce n'est pas dans nos usages. Je vais encore, si vous le permettez, citer Talleyrand, mais ce sera pour justifier la place que notre Académie accorde depuis toujours aux diplomates et à la diplomatie. La diplomatie n'est point une science de ruse et de duplicité. Si la bonne foi est nécessaire quelque part, c'est surtout dans les transactions politiques, car c'est elle qui les rend solides et durables. On a voulu confondre la réserve avec la ruse. La bonne foi n'autorise jamais la ruse, mais elle admet la réserve. Et la réserve a cela de particulier, c'est qu'elle ajoute à la confiance. Dominée par l'honneur et l'intérêt de son pays, par l'honneur et l'intérêt du prince, par l'amour de la liberté, fondée sur l'ordre et sur les droits de tous. Un ministre des Affaires étrangères, quand il sait l'être, se trouve ainsi placé dans la plus belle situation à laquelle un esprit élevé puisse prétendre. Depuis sa fondation, cette académie considère que l'élévation de l'esprit, en ce qui concerne la politique, ne tient pas seulement à l'activité intellectuelle et scientifique, à la recherche et à l'érudition, mais qu'elle existe aussi dans l'action, dans la pratique, et notamment dans la plus noble des pratiques, celle qui concerne la diplomatie, quand elle est pensée, celle qui concerne la politique, c'est-à-dire quand elle sert les fins les plus hautes, et non pas quand elle devient serve de l'opinion et des passions, situations fréquentes peut-être, mais dans lesquelles l'une et l'autre perdent toute dignité. Comme vous allez appartenir à la section générale de notre académie, je me suis demandé en toute naïveté si nos prédécesseurs, auteurs de nos règles, en constituant cette section générale distincte des 5 autres sections, toutes dévouées à une discipline indispensable à celui qui veut penser la politique, la philosophie, la morale et la sociologie, le droit, l'économie et l'histoire, si nos prédécesseurs n'avaient pas institué cette section pour y accueillir les praticiens de la politique. Mais j'ai constaté que cette section n'existait ni en 1895, ni en 1832. Il y avait pourtant déjà des hommes politiques et des diplomates. C'est sans doute que dans l'esprit de Sieyès, plus encore dans celui de Guizot ou de Victor Cousin, un homme politique était nécessairement un grand orateur, un profond lecteur, un homme savant et un écrivain distingué. Il y a eu effectivement, chez les inventeurs du système représentatif au XVIIIe et au XIXe siècle, l'espoir ou l'illusion que ceux qui seraient amenés à gouverner seraient les plus savants. Question qui d'ailleurs hante la philosophie politique depuis son origine, la formule grecque selon laquelle le meilleur gouvernement est le gouvernement des meilleurs reste irréfutable. Irréfutable en logique et confirmée par l'expérience, on peut constater que quand les politiques ne savent pas, ils échouent, puisque l'histoire montre qu'il existe de mauvais gouvernements et que la sélection des meilleurs dans toutes les formes politiques, même dans la démocratie, est une œuvre incertaine et difficile. Si on a créé en 1964, seulement en 1964, une section générale, est-ce que parce que l'illusion du XIXe siècle s'était dissipée et qu'il fallait mettre d'un côté les spécialistes, professeurs ou praticiens dans une discipline, et de l'autre les généralistes, parce que l'action à son plus haut niveau, au niveau de la politique intérieure ou diplomatique, oblige à la généralité. Ce serait une interprétation trop simple, et puisque je me suis donné pour tâche pendant ma présidence, lorsque nous recevrons solennellement un nouveau confrère, de préciser l'histoire et le rôle de la section à laquelle il va appartenir. Vous me permettrez donc de dire quelques mots de la section générale et de ce qui l'a précédée. Elle a été créée en mai 1964. Le président de notre académie, Louis Baudin, venait de disparaître. René Cassin, ancien président, a présidé le comité secret à la place de Georges Davy, sans doute absent. Ce jour-là, l'académie a supprimé la distinction qui existait depuis 1795 et 1832 entre les membres libres et les membres titulaires appartenant à une section. Il n'y aurait plus désormais que des académiciens titulaires. Comme tous les académiciens titulaires appartenaient à une section, il fallait soit répartir les membres libres entre les sections existantes, soit créer pour eux une section. C'est ce que l'on a choisi de faire. Je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup délibéré sur l'intitulé de cette section. Le rapport préparatoire avait suggéré problèmes généraux et sociaux. Cet intitulé n'a résisté ni à l'examen, ni à l'indignation de la section de sociologie. On a donc décidé section générale. Mais qui, avant 1964, et depuis pendant un siècle et demi, qui étaient les membres libres ou les académiciens libres? Ils étaient tous éminents. Ils étaient tous éminents, mais ils ne votaient que pour les académiciens de leur ordre. avec l'Assemblée de leurs confrères. Ils étaient présentés à l'élection par une commission émanant des 5 sections. Ils ne pouvaient être président ou secrétaire perpétuel. Donc ils ne pouvaient présider ni l'Académie ni l'Institut. Les membres libres étaient comme des docteurs honoris causa dans une université, infiniment respectés, ayant droit de séance et de délibération, mais trop élevés par ailleurs ou trop occupés, et d'une certaine façon distinct des académiciens titulaires. Il est évident que cette distinction ne correspondait ni aux mœurs ni aux idées du XXe siècle, moins attentif à ses nuances et à ses prévenances que le siècle précédent, ni à l'esprit d'égalité de nos concitoyens, ni à cette part de la nature humaine qui tient à exalter les grandeurs d'établissement. Ce qui est surprenant, c'est que la distinction entre les membres titulaires et les membres libres est durée 132 ans. Peut-être le frémissement égalitaire qui devait s'épanouir en mai 1968 s'annonçait-il déjà dans les rangs de notre compagnie. Si l'on considère la liste des membres libres, qui trouve-t-on? D'abord les grands noms du Parti libéral après 1830. Le duc Victor de Broglie, Louis de Rémusat, Casimir Perier. Suivi au fil du temps par de grands politiques ou de grands militaires, Hippolyte Carnot, Gaston Doumergue, Paul Deschanel, le maréchal Pétain, Léon Bourgeois, Louis Marin. On aperçoit de grands protestants, Albert Schweitzer, Marc Bögner et plus près de nous, Oscar Kuhlmann. Des industriels ou des financiers, Eugène Schneider, Raoul Dautry, André Grandpierre, Wilfried Baumgartner. Quelques universitaires égarés, Émile Boutmy et Anatole Leroy-Beaulieu, qui furent les premiers directeurs de l'École libre des sciences politiques, Edmond Villet et Maxime Leroy, auxquels succéda en 1958 un homme politique, Édouard Bonnefousse, qui fut pendant un demi-siècle l'âme de la section générale et qui certainement joua un rôle lors de la délibération de 1964. La diversité règne dans cette liste d'hommes tous éminents. L'observateur ou l'historien aura de la difficulté à y trouver des principes ou des règles. On aperçoit l'évolution des mœurs et des idées. Cependant, si l'on regarde attentivement l'ensemble des membres libres et des membres de la section générale, on voit émerger un massif central. La part la plus importante, par le nombre, par la cohérence, d'académiciens libres ou d'académiciens de la section générale. Je vais énumérer quelques noms seulement. Paul Cambon, Camille Barrère, Alphonse de Courcelles, André-François Poncet, Léon Noël, François Puot, Olivier Worpser, Louis Jox, René Brouillet. Ils ne venaient pas tous du corps diplomatique, mais tous furent de grands diplomates et de grands ambassadeurs. Dès lors, le mystère de la section générale où des membres libres se dissipent. Il s'agit de la section diplomatique, mais comme le recommande Talleyrand, qui était membre titulaire dans la section d'économie, le succès du diplomate doit rester dans l'ombre, car il sait qu'il ne doit briller que d'un éclat réfléchi. C'est donc tout naturellement que cette section et notre académie accueillent le premier de nos diplomates, Monsieur l'ambassadeur de France Jean-David Lévite, que j'invite à lire la notice sur la vie et les travaux, notre cher et regretté confrère Raymond Triboulet.
Merci Monsieur le Président, merci de cette introduction si généreuse. Monsieur le Président, Monsieur le secrétaire perpétuel, Monsieur le chancelier, chers confrères, Mesdames et Messieurs, au moment où la plus respectable des traditions académiques m'offre l'occasion de prendre la parole devant vous, une coïncidence de calendrier donne à mes propos un surcroît d'opportunité. Il y a 2 jours, le président de la République française accueillait en Normandie le président des États-Unis d'Amérique pour célébrer avec lui l'anniversaire du débarquement des forces alliées le 6 juin 1944. Et aujourd'hui, 8 juin 2009, nous rendons ici hommage à Raymond Triboulet, qui, plus que tout autre, contribua à transformer les plages du débarquement en lieu de mémoire. Nous rendons hommage à celui qui fut le premier sous-préfet de la première ville libérée, Bayeux. D'emblée, une image s'impose à nous, De Gaulle à Bayeux. Cette grande figure se tient debout, debout sur le seuil de la France libre et auprès du général, dans cette première parcelle du territoire national enfin libéré, Raymond Triboulet incarne le rétablissement de la légalité républicaine. Une image, aussi glorieuse soit-elle, ne saurait pour autant résumer à elle seule toute une vie, et celle de Raymond Triboulet moins que tout autre. Peu d'académiciens avant moi ont eu le privilège, pour la lecture de la notice consacrée à leurs prédécesseurs, d'exposer en ce lieu un siècle tout entier. En effet, l'homme dont la mémoire nous réunit ici a vécu presque jusqu'au bout la 100e année de son existence. Il est né le 3 octobre 1906. La France était alors tout agitée par la récente crise des inventaires et par la condamnation pontificale, monsieur le cardinal, de la loi de séparation. Dans une Europe presque intégralement monarchique, les tensions croissantes entre la France et l'Empire allemand alimentaient les vieilles haines nationales. Et pour la première fois, à la conférence d'Algésiras, un président des États-Unis venait d'être appelé en médiateur dans une lutte où se jouait la paix du monde. Raymond Triboulet, décédé le 26 mai 2006. La France était alors secouée par une nouvelle crise politique au sujet de l'emploi des jeunes. L'Europe cherchait comment gouverner une union de 25 membres. Et la veille de ce triste jour, une fusée Ariane 5 avait mis sur orbite deux satellites, l'un mexicain et l'autre thaïlandais. Ce n'est plus le même monde, ni la même Europe, ni la même France. Entre les deux dates, un siècle, mais une seule vie d'homme. Je n'ai pas eu l'honneur de connaître personnellement Raymond Triboulet. Sa fille Marie-Luce, son gendre, son petit-fils, qui m'ont longuement et généreusement accueilli pour me parler de lui et m'ouvrir ses archives, et dont je salue la présence dans cette salle, me l'ont décrit comme un homme de grande allure et de vaste culture, d'un caractère joyeux et convivial, d'opinions tranchées et de convictions fortes, une personnalité attachante par le savant alliage entre le conservatisme et l'ouverture sur le monde. Passionné de musique, de Mozart à Charles Trenet, et de poésie, il était un orateur né et un écrivain talentueux. N'ayant pu profiter de son verbe, je me suis contenté des œuvres de sa plume, dans lesquelles je me suis plongé avec l'aide efficace d'Yves Brulet, que je remercie chaleureusement. Les publications de Raymond Triboulet sont nombreuses et variées, dominées par deux volumes de mémoires relatant sa vie politique. J'en citerai les passages où l'homme paraît. Ils sont vécus, ils sont ressentis. L'expression y est forte, saisissante, imagée. Qui feuillette ses mémoires les garde dans la main. Qui commence leur lecture ira jusqu'au bout. Ces écrits, ajoutés aux témoignages, me permettent de vous présenter une forme de triptyque. Le destin du résistant, le parcours du politique, l'œuvre de l'académicien, sans jamais perdre de vue l'unité profonde de cette existence exceptionnelle. Raymond Triboulet est l'un de ces jeunes gens nés à la Belle Époque, élevés dans le souffle héroïque de la Grande Guerre, arrivés à l'âge d'homme, au temps des crises de la Troisième République, et précipités dans le combat par la défaite et par l'appel de la résistance. Refonder la liberté politique, régénérer la nation française, ressusciter le génie enseveli dans les monuments ruinés de la France meurtrie, ce fut leur rêve. Pour certains, ce fut leur destin. Mais à ce portrait collectif, Raymond Triboulet ajoute une profonde singularité. À l'âge où tous les Rastignacs entrent dans la capitale pour y lancer leurs défis, il quittait Paris pour s'installer comme agriculteur en Normandie. À l'âge où les provinciaux prennent le risque d'imiter les déracinés de Barrès, il partait s'enraciner dans la terre du Bessin. Comment ce bourgeois parisien, façonné spirituellement par le catholicisme et culturellement par le maurrasisme, s'est-il imposé un projet aussi insolite ? Son enfance est marquée par un père avocat trop tôt disparu, une mère très pieuse d'origine hongaro-brésilienne, par une sœur entrée au Carmel de Pontoise et par une expérience trop vite interrompue dans le scoutisme naissant à la paroisse de Saint-Honoré-des-Laux. À 19 ans seulement, il est licencié en droit et licencié S-lettres classiques. Il rêve de politique, de littérature et d'agriculture. À la mort de son père, il décide de s'installer en province avec sa jeune épouse Luce et il acquiert un vaste domaine dans le Calvados. Il faut l'entendre décrire ce qui deviendra son pays d'adoption. Le Bessin est bordé par l'une des plus belles côtes de Normandie. Les hautes falaises herbues qui vont d'Arromanche à la baie d'Isigny offrent l'incomparable plage de Colville, l'une des plus pittoresques de France. Le Bessin est le lieu de rencontre des deux matériaux de construction les plus nobles de Normandie, la pierre blanche de la plaine de Caen et le schiste du Bocage. Par les falaises, les bois et les vallées, le touriste retrouve son chemin en découvrant à l'horizon, comme l'étoile polaire de cet admirable Bessin, les trois clochers de l'église mère, la cathédrale de Bayeux. Mais le sort paraît s'acharner contre les velléités de notre Candide d'aller cultiver son jardin. À peine la terre est-elle acquise, de graves problèmes de santé retardent l'installation du jeune couple dans le domaine et obligent Raymond Triboulet à trouver un emploi à Paris. Faute de pouvoir vivre encore de sa charrue, il vivra donc de sa plume. Il entre à la rédaction du journal économique Le Pour et Le Contre, où le digne octogénaire Eugène Ichac l'accueille avec chaleur. Le succès est au rendez-vous et suscite chez le jeune homme de nouvelles ambitions. Il décide de se lancer dans la vie politique et jette son dévolu sur une circonscription de l'Oise, encore assez proche de Paris pour y faire campagne sans trop de peine. Après un consciencieux travail de terrain, auprès des élus et de leurs électeurs, il se présente aux législatives de 1936 contre le candidat radical socialiste qui soutient le Front populaire. La candidature de notre jeune journaliste de 30 ans échoue. Il se tourne alors résolument vers le Calvados et le syndicalisme agricole, tout en continuant de fréquenter les milieux royalistes de Paris ou de province. Mais en septembre 1938, au lendemain des accords de Munich, il rompt totalement et définitivement avec eux. C'est un tournant décisif de son existence. Il exprime alors son dégoût de la droite pro-fasciste et sectaire dans un livre, Les billets du Négus, inspiré des lettres persanes. C'est une évocation sans concession du dévoiement de la société conservatrice parisienne à la veille de la guerre. On y lit une caricature prémonitoire de politiciens médiocres se disputant le mérite d'avoir sauvé la paix du monde à Munich. Le livre, écrit à la fin de 1938, paraît au début de 1939. À ce moment, Raymond Triboulet a franchi une étape tant sur le plan idéologique que personnel. Enfin, le voici installé avec sa famille dans sa grande ferme de Sainte-Croix-Grand-Tonne, Enfin, il exerce dans sa chère Normandie la profession d'agriculteur. Mais la guerre qu'il avait pressentie lors des accords de Munich, interrompt bientôt ses activités. Mobilisé au régiment d'infanterie de Saint-Lô, il évite de justesse la réforme. Étant privé d'un poumon, depuis la tuberculose de ses 20 ans, il doit convaincre son officier supérieur de sa capacité à combattre. Avec courage, il se retrouve où son devoir et sa conscience l'appelaient. Mais c'est le temps de la drôle de guerre, épisode qui le consterne, puis le temps de la défaite, et le voici prisonnier en juin 1940. Cet effondrement de l'armée française, écrit-il dans ses mémoires, est au centre de ma vie. Et je ne me sens en pleine communion, même dans le gaullisme, qu'avec ceux qui ont combattu et subi l'horreur de la défaite, seuls capables, à mon sentiment, de communier pleinement avec le général lui-même. Dans l'Oflag 11 à d'Osterode, son chef de baraquement se nomme Jean Guiton et partage une chambre avec son frère Henri Guiton, fraternité à laquelle s'ajoutera bien plus tard la confraternité de notre académie. Transféré dans un sanatorium près de Dresde, Raymond Triboulet est finalement renvoyé en France pour raison de santé en février 1941. De retour en Normandie, il reprend ses activités auprès des agriculteurs et dans les mouvements catholiques. Démobilisé administrativement, mais pas moralement, selon ses propres mots, révolté par la collaboration, reconnaissant au général de Gaulle de n'avoir pas rompu le combat, Raymond Triboulet entre en résistance et rejoint le réseau CDLR, ceux de la résistance. Il se spécialise dans le renseignement sur le dispositif allemand de son département. En 1944, les bruits d'un possible débarquement en Normandie élargissent les tâches des résistants. Il s'agit aussi de penser aux suites immédiates d'un tel événement s'il advenait. Il faut notamment préparer les équipes destinées à administrer la région et appeler à se substituer dès que possible au cadre nommé par Vichy. Tel sera bien l'enjeu primordial au jour du débarquement pour les chefs de la France libre. Dès le 6 juin, Maurice Schumann arrive sur le sol normand et, au nom du général de Gaulle, rencontre Raymond Triboulet avec deux autres chefs de la résistance locale. De Gaulle cherche à imposer le principe d'une administration française dans les territoires libérés et à peine à convaincre les Anglais et les Américains. Le 14 juin, De Gaulle se rend lui-même en Normandie et fait une entrée triomphale à Bayeux. Grâce à la résistance et à la fermeté du général, les Alliés acceptent le principe que les gaullistes sont déjà en train de mettre en pratique sur le terrain. François Coulet, ancien chef de cabinet du général, est nommé commissaire de la République dans les territoires libérés, où il assurera la liaison avec les forces alliées. Il fallait sans délai un sous-préfet dans les communes libérées et à Bayeux, non seulement pour incarner la légitimité républicaine substituée à l'administration vichiste, mais aussi simplement pour administrer la tête de pont, territoire minuscule encore et entouré par la bataille. Raymond Triboulet a toujours démenti la légende selon laquelle il aurait accueilli lui-même à Bayeux le général de Gaulle le 14 juin. Ce n'est que le lendemain qu'il rencontra François Coulet et le surlendemain qu'il fut nommé sous-préfet. Il a donné le récit de cet épisode historique lors d'un colloque en 1994 et je cite son témoignage qui ne manque pas d'un certain pittoresque. Coulet m'a dit qu'il fallait absolument un sous-préfet pour s'occuper de la masse des réfugiés. Je lui dis que je n'étais pas administrateur. Peu importe, c'est la guerre, vous avez de l'instruction, vous connaissez bien le coin, vous êtes sous-préfet. Et voilà comment j'ai pris mes fonctions. Si nous n'avions pas réussi à ce que les Américains et les Anglais ne gouvernent pas, je crois que la suite des opérations dans le reste de la France aurait été diablement compromise. Raymond Triboulet raconte ensuite ses débuts chaotiques et artisanaux dans ses nouvelles fonctions. « J'ai réquisitionné toutes les motos possibles qui n'avaient pas servi sous l'occupation. Et j'ai mis sur ces motos des jeunes gens qui n'avaient pas été incorporés. Et je leur ai dit, il faut courir quelques risques. Vous allez sur la ligne de front. » Le 17 juin, je leur ai fait porter une énorme circulaire dans les ruines de chaque pays libéré. En effet, on bombardait tous les villages avant de les prendre, dans laquelle je leur disais de chercher s'il y avait un habitant qui n'avait pas l'air trop imbécile et de lui remettre ses papiers en lui disant « Il faut un maire, vous êtes le maire de la commune ». Quand les officiers des affaires civiles arrivaient, ils rencontraient un gars qui leur disait « Je suis en liaison avec la sous-préfecture de Bayeux, et c'est moi le maire, et voilà les états à remplir ». Raymond Triboulet aimait à dire qu'il n'avait été qu'un modeste caillou, pavant la route du général. 2 ans plus tard, dans son discours de Bayeux le 16 juin 1946, de Gaulle dira « C'est ici que sur le sol des ancêtres réapparut l'État, l'État légitime, parce qu'il reposait sur l'intérêt et le sentiment de la nation ». Mes chers confrères, en évoquant le discours de Bayeux, nous sommes entrés dans une autre période, une autre France, celle de la IVe République. De Gaulle a quitté le pouvoir et Raymond Triboulet est plus gaulliste que jamais. Ni la Constitution nouvelle, ni la vie politique qui a repris ses droits, ne répondent à ses espérances. Le sous-préfet se sent en parfaite communion avec le discours que l'ancien chef de la France libre prononce pour le second anniversaire de son triomphe de Bayeux. Une fois encore, Raymond Triboulet confie à sa plume le soin de traduire en mots son amertume politique et, comme au lendemain de Munich, il choisit la fiction. Dans un roman intitulé « Sens dessus-dessous », il dit son dégoût d'une classe politique médiocre et vaniteuse, aussi peu lucide que possible avant la défaite et revenue au pouvoir aussitôt après la victoire. L'histoire est celle d'un jeune attaché au cabinet d'un ministre typique de la IIIe République. Son personnage est peut-être ce qu'il aurait rêvé d'être, mais le rêve tourne au cauchemar. Combat, défaite, occupation, évasion et enfin la libération, c'est alors que notre jeune héros retrouve son ancien ministre, semblable à lui-même, revenu au pouvoir avec son bagage intact de médiocrité, de vanité satisfaite et tenant toujours les mêmes discours lénifiants et hypocrites. Œuvre étrange et dure, mais profondément sincère, ce petit roman en dit long, sans doute, sur l'état d'esprit de Raymond Triboulet au début de la IVe République. Pourtant, l'action politique reste chez lui une seconde nature. Le gaulliste ne restera pas les bras croisés à méditer sur ses espérances déçues. En novembre 1946, il est élu député du Calvados sous l'étiquette des Républicains indépendants. Il siégera dans l'intergroupe du RPF. Il est réélu en 1951, puis en 1956, et prendra alors la présidence du groupe parlementaire des Républicains sociaux. La première partie de ses mémoires, parue sous le titre « Un gaulliste de la quatrième », donne un récit détaillé de la vie parlementaire à laquelle Raymond Triboulet a pris une part active. Un épisode retient l'attention. En décembre 1953, le député gaulliste contribue à l'élection à la présidence de la République de son ami René Coty, indépendant, bien disposé à l'égard du général. En 1955, l'espace de quelques mois, Raymond Triboulet siège au gouvernement dans le second cabinet Edgar Faure comme ministre des anciens combattants et des victimes de guerre. Mais l'expérience tourne court et Raymond Triboulet quitte le ministère avec une bonne dose de mépris pour le président du Conseil qu'il retrouvera plus tard dans d'autres circonstances politiques. Arrive l'année cruciale de 1958. À la fin du premier volume des mémoires, on se demande ce qui reste de la IVe République, si ce n'est l'inévitable nécessité de sa chute. Encore s'étonne-t-on à le lire que ce régime se soit traîné si longtemps, d'un pas aussi chancelant, la tête si vide, les jambes si molles, sur un sol qui glissait sous ses pieds. Raymond Triboulet voit dans la crise finale la confirmation de sa foi gaulliste. Les fonctions qu'il occupe à l'Assemblée et les liens personnels qu'il entretient avec le président Coty lui offrent l'occasion de jouer un rôle important dans l'avènement de la Ve République. Dès le 20 mars 1958, Raymond Triboulet est reçu par De Gaulle à sa demande. Il décrit avec précision, devant le général, une procédure qui permettrait son retour au pouvoir. Appel solennel du chef de l'État, réunion des présidents des groupes parlementaires, investiture à l'Assemblée comme président du Conseil. Sceptique, De Gaulle se voit mal dans cette comédie parlementaire. Ne croit pas que le moment soit venu, mais ne contredit pas son interlocuteur. Président du groupe parlementaire gaulliste, Raymond Triboulet continue d'informer le général sur l'évolution des esprits au Palais Bourbon. Le 16 mai, la crise politique est à son comble. L'Assemblée nationale discute de l'état d'urgence. Raymond Triboulet prend la parole et rappelle que De Gaulle a restauré la République et ne peut être accusé de la menacer. Guy Mollet lui répond en énumérant les questions auxquelles, dit-il, De Gaulle doit répondre au préalable. Ce faisant, loin d'écarter l'hypothèse de l'appel au général, Guy Mollet la rendait crédible. Une brèche s'ouvrait dans le mur dressé par les partis depuis 1946. Le 19 mai, René Coty reçoit Raymond Triboulet à l'Élysée. Le président lui dit « Je suis responsable, je joue ma dernière carte » et lui annonce qu'il va appeler De Gaulle en mettant sa démission dans la balance, ce qu'il fait le 30 mai. Raymond Triboulet avait accompagné sans regret la IVe République jusqu'à sa triste fin. Il participe avec enthousiasme à la naissance de la Ve, en siégeant au comité consultatif constitutionnel chargé de préparer la nouvelle loi fondamentale. Le 8 décembre 1958, dans la nouvelle Assemblée nationale, il est élu par acclamation président du groupe gaulliste, devenu le groupe le plus nombreux. Mais un mois plus tard, il entre dans le gouvernement dirigé par Michel Debré, qui lui confie le ministère des anciens combattants, où sa connaissance des hommes et des affaires le désignait. Il garde ce portefeuille jusqu'au 6 décembre 1962, pendant 3 années politiques d'une singulière intensité. Sur le plan gouvernemental, le printemps 1962 est marqué par la nomination de Georges Pompidou à Matignon. Ce choix singulier ne me rassure absolument pas, écrit Raymond Triboulet dans ses mémoires. Ce que je connais de Georges Pompidou d'alors me fait croire qu'il n'est pas préparé à cette fonction considérable. Plus généralement, Raymond Triboulet juge sévèrement la méfiance un peu dédaigneuse du général à l'égard des élus locaux siégeant au Parlement et sa prédilection pour les ministres techniciens, tels que Pompidou, Couve de Murville et plusieurs autres collègues du gouvernement. Cette différence de sensibilité entre le général et Raymond Triboulet ressurgit à l'automne de la même année lors du débat sur la réforme constitutionnelle instaurant l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Au Conseil des ministres du 26 septembre, De Gaulle demande à chaque ministre d'exprimer son opinion. Le débat se fixe un moment sur le nombre de parrainages nécessaires pour être candidat. En filigrane se retrouve l'image positive chez le ministre, plus négative chez le président, des élus locaux. Alain Perfitte a relaté ces échanges parfois tendus. Raymond Triboulet prend la parole et suggère de relever le nombre des parrains. Il attribue ainsi aux élus locaux un rôle de sélection. « Je crains, dit-il, que nous ne soyons submergés par une quantité de candidatures fantaisistes qui discréditeraient l'élection présidentielle. N'importe qui peut recruter 100 parrains. De Gaulle lui répond « Mais enfin, est-ce que la démocratie, ce n'est pas précisément que tout le monde puisse se présenter à une élection ? Le peuple fera le tri. » Imperturbable, comme à son habitude, en face du général, Raymond Triboulet répond à son tour. Les deux candidats présents au second tour risquent d'être les deux extrêmes. Il me paraît indispensable, dans cette affaire, de ne pas nous éloigner du MRP, qui jouera un rôle important de charnière. Or, il est hanté par la crainte que l'on divise le pays en deux. De Gaulle, croyez-vous qu'il préfère que l'on divise le pays en trois ? Pourquoi ne voulez-vous pas faire confiance au peuple ? Triboulet, mais je répète que le MRP sera contre. De Gaulle, à moins qu'il n'espère en profiter. Si les relations entre De Gaulle et Raymond Triboulet laissent poindre parfois l'agacement chez le premier, la controverse chez le second, le lien de fidélité qui les lie depuis la guerre ne se rompt pas. Lors de la formation du deuxième cabinet Pompidou, le 6 décembre 1962, Raymond Triboulet est nommé ministre chargé de la coopération. De Gaulle le convoque. C'est une maison nouvelle qui n'a pas encore de structure ferme, lui dit-il. Je vous demande d'en faire un grand ministère. Le ministre se passionne pour sa nouvelle tâche, mais celle-ci se révèle bien plus périlleuse qu'il ne le supposait. Depuis sa création en juin 1961, le ministère est délégué auprès du Premier ministre. Issu de l'éphémère communauté franco-africaine, il n'a de compétences que pour l'Afrique noire. Mais pour les pays concernés, les affaires politiques et de défense relèvent du Quai d'Orsay, où la direction des affaires africaines et malgaches conserve en outre la coopération avec les pays non francophones. Et comme chacun le sait, il existe, sous l'autorité directe du président de la République, une cellule ad hoc installée aux deux rues de l'Élysée, sous la direction de Jacques Faucard et de son adjoint, notre confrère Alain Plantet. Cette organisation, d'une singulière complexité, ne pouvait fonctionner sans vive tension. Les témoignages des acteurs de la politique de coopération à cette époque ne sont qu'une longue chronique des querelles de principe, des escarmouches politiques et des rivalités personnelles. En 1965, Raymond Triboulet propose de mettre fin à l'empirisme désordonné de nos structures gouvernementales de coopération par l'extension de son ministère à tous les pays en voie de développement. À l'opposé, d'autres préconisent le rattachement de la coopération au Quai d'Orsay. Tel sera finalement le choix du général. Le 24 janvier 1966, De Gaulle et Pompidou profitent du remaniement ministériel pour transformer le ministère de la coopération en secrétariat d'État aux affaires étrangères chargé de la coopération. Naturellement, Raymond Triboulet est remplacé. Sa sortie du gouvernement l'affecte moins que la disparition du grand ministère auquel il avait su donner pendant ces 3 années un dynamisme que ses adversaires eux-mêmes ont reconnu. Conseiller général du Calvados, réélu député à l'occasion des législatives de 67, désigné à nouveau par ses pairs pour présider le groupe gaulliste à l'Assemblée, par ailleurs président de l'association France-Israël, Raymond Triboulet n'a pas encore renoncé à une vie politique active. En 1968, bien que député de la majorité, il mène une lutte sans concession contre la loi d'Edgar Faure de réforme des universités. De son banc ou de la tribune, il en critique la forme autant que le fond. Dans les mois qui suivent les événements de mai, Raymond Triboulet comprend qu'une page de l'histoire politique est en train de se tourner. Fatigué par les luttes politiciennes françaises, atterré par le départ du général de Gaulle et bientôt affligé par sa disparition, Raymond Triboulet consacre les dernières années de sa carrière parlementaire à son engagement européen. Membre du Conseil de l'Europe de 1949 à 1958, membre de l'Union parlementaire européenne de Richard Coudenhove-Kalergi, président de la Confédération européenne des anciens combattants, il n'a jamais cessé, depuis la guerre, de proclamer la compatibilité entre le gaullisme et le projet européen. Dans une communication très éclairante, prononcée ici même, le 14 juin 1971, devant l'Académie des sciences morales et politiques, il a résumé sa position à l'égard de la construction européenne, justifiant le titre donné à son exposé, l'esprit communautaire européen. Il déclare aux académiciens: l'esprit communautaire a pour premier fondement la renaissance du mot Europe. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a redonné vie au mot d'Europe chez des peuples qui ont souffert 5 années durant de l'occupation allemande. À ses yeux, l'esprit communautaire européen est né peu à peu, depuis la guerre, à travers l'exercice de fonctions européennes qui donnent leur âme aux organismes européens. Avec franchise, il reconnaît qu'en 1946, lorsqu'il avait fondé le groupe fédéraliste au Parlement français, il avait plaidé pour une toute autre méthode. Les premiers parlementaires gaullistes, soucieux de construire l'Europe, avaient rallié la cause de ceux qu'on appelait alors des institutionnalistes. Comme eux, Raymond Triboulet pensait que, par un accord politique au sommet, dès le lendemain de la guerre, il eût été possible d'établir des institutions confédérales européennes. Mais en 1949, ce sont ceux qu'on appelait alors les fonctionnalistes qui l'avaient emporté, Jean Monnet et Robert Schuman. Tous les deux posèrent les bases d'une première communauté, celle du charbon et de l'acier, puis on passa au marché commun, à la CEE à 6. Or, explique Raymond Triboulet devant l'Académie, pour ceux qui, comme moi, ont suivi pas à pas les progrès de ces institutions, non seulement nous nous inclinons devant cette réalité européenne, puisqu'elle seule existe, mais nous pensons que le succès remarquable de cette communauté économique européenne ne nous permet plus de penser qu'avec une autre méthode, on aurait été plus vite et plus loin. Bref, je suis un institutionnaliste converti et je rends hommage à tous ceux qui ont contribué à ce succès. Après avoir vanté le fonctionnement de la CEE à 6 membres, Raymond Triboulet justifie son hostilité à l'adhésion du Royaume-Uni par la difficulté d'associer dans une même Europe l'esprit insulaire de la Grande-Bretagne et l'esprit communautaire qu'ont fait naître les 12 ans de travail à 6 sur le continent européen. Ainsi craignait-il que l'entrée des Britanniques rendît impossible la recherche de l'unanimité et brisa l'esprit communautaire en train de naître. Sa péroraison, celle d'un homme qui sait être solennel sans jamais cesser d'être sincère, mérite d'être citée. Dans le tohu-bohu du monde actuel, l'homme sage allume une lampe dont la flamme paraît bien petite. Pourtant, elle brille. Nous ferons tout pour que, loin de s'éteindre, sa lumière s'étende, parce que seule elle nous paraît digne de l'homme européen. 2 décennies plus tard, dans une Europe dont il faut reconnaître qu'elle avait bien changé, Raymond Triboulet s'opposera au traité de Maastricht et dénoncera avec force, dans une communication devant notre Académie, la partialité des médias gouvernementaux dans la campagne référendaire. Pour l'heure, Raymond Triboulet achève sa carrière parlementaire et quitte l'Assemblée nationale en 1973, sans regret, si l'on en croit, la fin de ses mémoires. « Pour moi, dit-il, la beauté de la vie, le succès, le bonheur sont ailleurs. Ils sont dans la foi. Selon cette devise que je donnais, prisonnier de guerre à 35 ans, pour règle de vie à ma famille, fide tribulatio levis. C'est la foi qui allège l'inévitable tribulation de ce monde. C'est toute la beauté bouleversante du monde créé. C'est la passion pour un idéal qui nous a illuminés si nous ne l'avons pas atteint. C'est la tâche assignée, l'honneur et la joie de la bien remplir. » Mes chers confrères, la foi, la beauté, la passion pour un idéal, la joie du devoir accompli, voilà, en peu de mots, le riche programme de la dernière partie de son existence, du dernier tiers de son siècle, qu'il consacra aux études historiques, à son œuvre d'essayiste et à la vie d'académicien. Ne siégeant plus à l'Assemblée depuis 1973, ni au Conseil général du Calvados depuis 1976, Raymond Triboulet reprend la plume avec plus de bonheur que jamais. La revue des Deux Mondes fait bon accueil à ses articles, mais c'est surtout à une œuvre restée inachevée depuis les années de guerre qu'il dédie son temps libre. Son héros est Gaston de Renty. À l'époque de l'occupation, un prélat de ses amis lui fait connaître cet auteur spirituel laïque du grand siècle des âmes. Raymond Triboulet est aussitôt conquis. Il décide d'étudier ses œuvres et d'écrire sa vie. La résistance, puis la politique, ont trop longtemps retardé le moment d'accomplir cette recherche et d'en livrer les fruits au public. En 1978, il publie la correspondance de Gaston de Renty, tandis que la biographie tant attendue paraîtra en 1991, 50 ans après ses toutes premières investigations. Ce qui attire Raymond Triboulet dans ce travail d'historien, c'est d'abord le genre lui-même, la biographie. J'ai toujours cru, écrit-il, que la recherche précise sur tel homme, en tel lieu, en tel temps, en telle société, ouvre des horizons vrais sur tout un moment de la véritable histoire qui est celle des hommes. Cette vision très classique du travail historique se fonde sur une analyse de la décision politique. Mon destin, dit-il, m'a permis d'être témoin de décisions politiques importantes. Le cours des choses, économie et société comprises, en a été profondément marqué pour des millions d'hommes. Or, ces décisions ont tenu aux réflexions et surtout à la passion de celui-ci ou de celui-là. Pour le cas particulier de son héros spirituel, l'auteur n'hésite pas à qualifier lui-même son livre d'hagiographie, assumant ainsi un genre particulier que même les historiens religieux fuient par crainte d'avouer à leurs lecteurs et de s'avouer à eux-mêmes l'intention qui les anime. Comme beaucoup d'hommes de sa génération, l'historien Triboulet estime que l'apologétique n'est pas incompatible avec l'érudition, et même que la première n'est rien sans la seconde. Et en effet, Raymond Triboulet a mis dans ce volume d'histoire, très bien étudié et de première main, tout son talent de narrateur, tout l'agrément et tout le brillant de son style. Il faut dire que le sujet était taillé à la mesure de son inspiration. Gaston de Renty est un gentilhomme normand né en 1611 au château du Béni, dans le bocage qui regarde la ville de Vire. Il élève des jésuites, puis appelé dans l'entourage de Gaston d'Orléans. Il y rencontre le père de Condran, disciple de Bérulle et inspirateur de la Compagnie du Saint-Sacrement. Il mène une vie très pieuse et devient à son tour l'une des principales figures de cette célèbre compagnie. Mes chers confrères, à ce stade de ma lecture, où j'évoque les vertus des membres de la Compagnie du Saint-Sacrement, je lève timidement les yeux vers Molière qui se dresse en face de moi, car il me semble l'entendre me dire « Mais ne connaissez-vous pas Tartuffe ?» Avec respect et prudence, je lui réponds en empruntant les mots de Raymond Triboulet lui-même. Même si certains critiques ont pu aller jusqu'à y voir certaines sources du Tartuffe, la sainteté de Gaston de Renty est si robuste, si éclatante et pour tout dire si actuelle qu'elle parvient à se dégager de tant de préjugés. Renty n'est certainement pas un prêtre manqué, c'est un saint laïc. Et par là, de toutes les grandes âmes de son époque, il nous est le plus actuel, ses problèmes essentiels restent devant nous. Comme Raymond Triboulet, Renty est marié, père de famille. Comme Raymond Triboulet, il est homme d'action et si nécessaire de combat. Il est la référence du gentilhomme chrétien, c'est-à-dire de celui qui peut faire oraison l'épée au côté. Comme Raymond Triboulet, Ranty est un homme de plume qui entretient une correspondance avec plusieurs couvents dont il est le conseiller laïque. Comme Raymond Triboulet, Ranty est certain que la haute vie spirituelle n'est pas incompatible avec la vie du monde. Comme Raymond Triboulet, il fréquente la noblesse normande et s'intéresse à sa sanctification pour ajouter à la noblesse de la terre et à la noblesse du nom, celle de l'âme. En évoquant la vie de Gaston de Ranty, c'est toute une génération du grand siècle, tout un coin de cette province à la fois très éclairée et très attachée à sa terre, à ses coutumes, à ses traditions, à son génie propre, que Raymond Triboulet fait revivre. Mais c'est aussi lui-même qu'il donne à voir à son lecteur. Attaché au XVIIe siècle, plus qu'à aucune autre période de l'histoire, Raymond Triboulet n'a pas négligé Corneille, un autre de ses compatriotes normands. Lors d'un colloque organisé à Rouen en 1984, pour le troisième centenaire de la mort du poète, il présenta une communication sur Corneille et l'aspiration au martyr, réflexion centrée sur Polyeucte, tragédie chrétienne, dont la représentation à la Comédie-Française en 1923 l'avait profondément marqué. Mais s'il admirait Corneille, ses préférences allaient à Jean Racine. Ces quelques vers des cantiques spirituels, les plus beaux de la langue française selon lui, viennent clore ses mémoires. Malheureux l'homme qui fonde sur les hommes son appui, leur gloire fuit et s'efface en moins de temps que la trace du vaisseau qui fend les mers ou de la flèche rapide qui, loin de l'œil qui la guide, cherche l'oiseau dans les airs. Raymond Triboulet, mes chers confrères, avait sa place à l'Institut. Il se présenta à l'Académie des sciences morales et politiques au fauteuil laissé vacant par le décès de Wilfried Baumgartner en section générale. La première tentative, le 21 mai 1979, fut infructueuse. 5 candidats s'étaient présentés. Raymond Triboulet recueillit le plus grand nombre de suffrages sans atteindre la majorité à l'issue des 5 tours de scrutin. Après cette élection blanche, il se présenta de nouveau le 17 décembre suivant et fut élu au premier tour. Académicien assidu, actif, dévoué, il était sincèrement attaché à l'institution qui l'avait accueilli et qu'il voulait servir. Dans un discours prononcé sous la coupole en 1991, il prononça un vibrant éloge de nos règlements académiques, dont il avait fait une lecture attentive. « J'y ai trouvé, disait-il, le dossier d'une société idéale, de membres égaux, s'administrant eux-mêmes par délégation à certains d'entre eux. L'immortalité y est mortelle, la perpétuité temporaire et le renouvellement perpétuel. » Il siégea à la commission administrative centrale de l'Institut entre 1992 et 1998. Au cours de l'année 1991, l'Institut connut ce qu'on est tenté d'appeler un moment Triboulet. Président de l'Académie des sciences morales et politiques et président de l'Institut, il eut à défendre les intérêts et l'indépendance même de notre Parlement des savants auprès du ministère de tutelle. Il rendit au ministre une visite pleine d'autorité qui fut décisive et, je dois dire, victorieuse. Au cours de cette même année, il présida une séance exceptionnelle réunissant 2 académies de province, celle de Caen par fidélité géographique et celle de Dijon par fidélité historique. En effet, pour son année de présidence de l'Académie, Raymond Triboulet avait proposé pour thème à ses confrères le sujet que l'Académie de Dijon avait mis au concours de 1749 et qui valut à Rousseau son premier titre de gloire. Le progrès des sciences et des arts contribue-t-il à épurer ou à corrompre les mœurs ? Dans la séance solennelle du 18 septembre 1991, Raymond Triboulet présenta la synthèse de l'année académique et acheva son discours par une citation du pape Jean-Paul II, exprimant mieux qu'il n'aurait pu l'exprimer lui-même le fond de sa pensée. Le divorce entre l'ordre scientifique et l'ordre moral est l'un des drames de notre temps. L'homme cherche à dominer le monde, mais il n'est pas encore maître de lui-même. Raymond Triboulet continua de siéger parmi ses confrères aussi longtemps qu'il le put. Mais le décès de sa femme, au terme d'une vie conjugale de 67 années, l'avait profondément affecté. Au moment de la rejoindre, Raymond Triboulet avait connu, outre ses 6 enfants, 17 petits-enfants, 34 arrière-petits-enfants et 4 arrière-arrière-petits-enfants. Mes chers confrères, mesdames, messieurs, il y a des hommes qui, dans le cours de leur vie active, ont été mêlés à tous les événements de leur siècle, leur histoire et celle de leur temps. Attachés à une cause, ils sont portés au pouvoir avec elle, fiers de ses succès et non moins fiers de subir ses disgrâces. Leur destinée a été partagée entre la pensée et l'action. Raymond Triboulet était l'un de ces hommes. Il est beau et enviable de vivre 100 ans. Il est plus beau et plus enviable encore de faire un tel usage de son siècle. En 1991, il avait souhaité que notre Académie consacrât une séance solennelle au thème qui lui était le plus cher, les vertus patriotiques. Ses confrères, Jean Foyer, Jean-Baptiste Durocel, Pierre Chaunu, Pierre Messmer et Pierre Georges, prirent successivement la parole. Quand vint son tour, Raymond Triboulet évoqua l'un des épisodes les plus décisifs de sa longue existence. Au sanatorium de Prusse orientale, où il avait été envoyé comme prisonnier de guerre, l'une de ses fonctions était d'assister les mourants. Beaucoup avaient perdu tout contact avec leur vie du temps de paix, dit-il. Ils n'avaient sur les lèvres comme dernier mot que le nom de leur mère, de leur famille, mais aussi celui de leur ville, village, quartier, de leur demeure. Dans le train sanitaire qui ramenait fin février 1941 quelques-uns d'entre nous, deux camarades moururent à mes côtés. Ils n'avaient qu'une obsession. Avons-nous passé la frontière? Sommes-nous en France? Bien entendu, je le leur affirmais avant de leur fermer les yeux. Et il concluait son discours par ces mots où tout est récapitulé. Nous représentons une des rares patries qui ait sauvé de justesse sa civilisation et sa prospérité, grâce au sursaut de l'âme nationale à l'appel du général de Gaulle. Il y a urgence et nécessité de sauver cette âme, ne serait-ce que pour guider tant de patries opprimées et aujourd'hui renaissantes. Installée sur le roc solide des valeurs qu'il avait héritées de la France classique, Raymond Triboulet n'a jamais cessé de porter sur le monde un regard plein de curiosité et de générosité. Il aura incarné, au cours du dernier siècle et jusqu'au seuil du nôtre, ce que notre pays enseigne de meilleur. Je vous remercie.
Vous venez d'entendre la retransmission de la séance solennelle de l'Académie des sciences morales et politiques qui s'est déroulée le 8 juin 2009 à l'Institut de France, au cours de laquelle Jean-David Levitte, selon l'usage, a lu la notice qu'il a rédigée sur le parcours et l'œuvre de son prédécesseur Raymond Triboulet.